Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces?
Évangile de Luc, chapitre 20, versets 27 à 38. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent l'interroger. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt ayant une femme mais pas d'enfant, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. » Il y avait donc sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, prirent la femme. Il en fut ainsi des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Après, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel est-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent pas non plus mourir parce qu'ils sont semblables à des anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. »
Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. C'est la seconde partie de la réponse de Jésus aux Sadducéens. Cette expression, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand on la pose devant nos yeux, qu'on la regarde, qu'on l'infuse dans son esprit, cette expression venue de la tradition juive, elle devient limpide. Comme devient limpide la réponse de Jésus aux Sadducéens. Comment Dieu pourrait-il être le Dieu des morts? Ou comment ses ancêtres, ses patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont en assemblée dans cette expression qui révèle qui est leur Dieu, comment cela pourrait-il être mort, puisqu'ils sont encore liés à Dieu, puisque Dieu est encore leur Dieu dans l'actualité même de cette expression? S'ils étaient morts, ils n'existeraient plus, et ça c'est bien la croyance des Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont les maîtres du temple de Jérusalem. Mais même Dieu ne peut pas être le Dieu de ce qui n'existe plus. Il est probable que les Sadducéens, qui étaient aussi, en plus d'être des maîtres, des références, étaient des fins connaisseurs de la Bible écrite, et je précise écrite, car c'est ce qui les distinguait des pharisiens, qui eux étaient des spécialistes de la loi dite orale, supposément qui a été transmise par Moïse de façon parallèle à la loi écrite, gravée. Sans doute que ces Sadducéens, qui étaient en plus reconnus comme des amateurs de controverses, ils connaissaient et employaient cette expression de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pour eux, comme d'ailleurs pour nous quand nous l'entendons de temps en temps au culte, cette expression est un marqueur de l'origine du peuple. Elle est une référence et une référence aux grands ancêtres, un peu comme nous, quand nous révérons des morts, dans, par exemple, notre si mal et outrageusement nommé Panthéon, tout en sachant évidemment que tous ces morts sont morts, bien que, pour les moins oubliés d'entre eux, nous pourrions en aimer encore l'héritage ou la mémoire. Or Jésus, que fait-il à ce moment-là? Face à ces Sadducéens, fidèles à leurs écrits, des écrits qui ne mentionnent nulle part la résurrection des morts. Ces Sadducéens qui lui ont jeté à la figure, comme un piège, cette histoire rocambolesque d'une veuve sérielle. D'abord, que fait Jésus donc, hein ? C'est la question. D'abord, il tente, comme on dit, de tuer le jeu. En évoquant qu'après la mort, il n'est plus question, vous l'avez entendu, de femme et de mari. Une façon déjà de leur dire que leur histoire n'a aucun intérêt. Alors, d'où Jésus tient-il ce savoir? L'a-t-il inventé comme ça, subitement? Je ne crois pas. Sans doute de traditions orales déjà en place qui décrivent un monde futur délivré des besoins organiques auxquels serait assimilée la nécessité de prendre mari ou femme. J'emploie l'expression « monde futur » puisque c'est cette expression qui va être reprise dans le Talmud par la suite. Talmud donc repris par probablement des pharisiens ou leurs épigones qui ont fini par mettre par écrit très vite des interprétations de la Torah. Et au IIIe siècle, par exemple, on lit par l'écriture d'un Amora, c'est-à-dire un docteur du Talmud, qui s'appelait Rab. Voilà ce qu'il affirmait. Il ne sera pas comme le monde présent, le monde futur, dit-il. Le monde futur, il n'y aura en lui ni nourriture, ni boisson, ni sexualité, ni commerce, ni jalousie, ni haine, ni dispute. Mais les justes seront assis, leur couronne sur leur tête, et ils se nourriront de l'éclat de la Shekhinah. La Shekhinah, ça signifie la présence divine. C'est un très joli mot d'ailleurs, si on a envie d'avoir une fille. Brusquement, on pourrait la nommer comme ça, c'est une idée, c'est un prénom assez rare finalement, puisque ce n'est pas un prénom. Ainsi qu'il est dit, rajoute notre rabbin Rab, ainsi qu'il est dit dans Exode 24, verset 11, « Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. » Bon, voilà. Alors Jésus répond ici finalement comme un des premiers rabbins du Talmud, mais vous savez bien qu'il n'a pas été considéré comme tel, car vous êtes au courant du conflit qu'il y a eu entre les pharisiens d'un côté et d'autres juifs croyant au Christ de l'autre côté. Ils se sont séparés au début de notre ère. Jésus répond ici comme un des premiers rabbins du Talmud et tout en défendant le principe pharisien et ensuite talmudique du monde futur et donc de la résurrection des morts, il affirme déjà que ce monde futur n'aura rien à voir avec ce monde-ci et non plus avec cette sombre histoire que les Sadducéens ont racontée pour le piéger. Voilà ce qu'il fait d'abord. Ma question, c'est toujours, que fait Jésus ? Alors, ce qu'on doit savoir, malgré tout, quand on est un amateur de l'Évangile, on s'en aperçoit assez vite, c'est qu'il y a un fil narratif dans les Évangiles, permanent, tout au long des Évangiles, c'est que Jésus est tout le temps menacé de mort. Et quand il est en controverse avec tel ou tel groupe, ce ne sont pas des simples controverses entre rabbins. C'est à la première faute, on te tue. C'est quand même très dangereux. Il est toujours en danger de mort. C'est le fil narratif des évangiles et on le connaît, ce fil, vu l'épilogue. Ce qui s'apparente à des discussions, c'est pour lui des menaces. Alors Jésus ne peut pas esquiver. Il doit répondre. Pourquoi ? À cause de la responsabilité même qui est liée à sa vocation, mais aussi pour ne pas être faible vis-à-vis de ceux et celles qui espèrent en lui, qui le suivent, qui l'entourent. Mais s'il doit répondre, il doit aussi, Jésus, rester libre. C'est-à-dire, il doit continuer de n'appartenir à aucun des clans en présence. Et c'est ça qui prend la tête parfois aux exégètes. On se dit, Jésus, il était quoi finalement? Quoi? À part juif au sens large. Et était-il plus pharisien? Était-il plus essénien? Était-il plus ceci, plus cela? Non, il semblerait qu'il est dû n'appartenir à aucun des clans en présence, et donc y compris ceux des pharisiens et des sadducéens qui, je vous le rappelle, entre eux, se livraient à une guerre d'influence. Alors, que fait Jésus? Cependant, il est bien certain que s'il s'était arrêté là, à dire que les morts ne se marient pas, la réponse n'aurait pas été satisfaisante. Et en lisant ce texte, j'ai pensé que, en fait, nous l'avons tous fait, ce phénomène, face à une question abrupte. Vous êtes tranquille, quelqu'un vous pose une question et d'emblée, vous répondez ce qui vous vient à l'esprit. Et pendant que vous parlez, vous réfléchissez à la façon plus pertinente de répondre par la suite. Vous l'avez tous fait, je suppose. Hein, on l'a tous fait. Et on regrette d'avoir dit les premières choses. Donc je le lis un peu comme ça, c'est un peu exagéré, mais parce qu'il y a deux réponses. Et la seconde me paraît effectivement plus pertinente, plutôt que d'évoquer un au-delà où tout le monde ne fait rien. La seconde partie de sa réponse, quand on la pose devant nos yeux, est non seulement pertinente, mais éblouissante et, à mon sens, totalement novatrice, que les morts se réveillent. C'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Ce n'est pas si évident que ça à comprendre ce que fait Jésus à ce moment-là en citant ça. Que fait Jésus à propos de la thématique de la résurrection? Eh bien, comme j'ai tenté de le suggérer dans le début de ce message, il réveille, il ressuscite une expression morte, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus avait peut-être la passion, comme le dit une philosophe, du verbe augmenté. Il ne change rien à la lettre des choses, mais en prononçant les mêmes mots, il invente un monde nouveau. Cette expression, il la rend incandescente comme le buisson ardent de Moïse, quand celui-ci, Moïse, pour la première fois, selon le livre de l'Exode, a entendu cette expression. Cette expression-là n'est plus une expression mémorielle. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une confession de foi dans la vie qui est plus forte que la mort. C'est une confession de foi qui est adressée à tous les endeuillés que nous sommes, puisque, en quelque sorte, nous sommes tous endeuillés. Et peu de gens voient le point commun que nous avons tous, ou presque. Et c'est dommage qu'on ne le voit pas, parce que ça nous unirait un peu plus. La vie, non seulement plus forte que la mort, mais qui l'englobe. La mort nous apparaît mystérieuse et effrayante, alors que la vie l'est infiniment plus. Et l'effroi éventuel ici serait celui de rencontrer le sacré. Pour lui, pour Dieu, tous sont vivants. Abraham, Isaac, Jacob. Si je devais, en termes de confession de foi, dire quelque chose de ma confiance en Jésus, je dirais que son regard est celui de Dieu porté sur notre monde. Je dirais que Jésus nous permet et nous autorise en fait à voir le monde comme le voit Dieu, qui le voit sans toutes les frontières artificielles que l'esprit humain a inventées et disséminées un peu partout pour tout séparer et parfois presque fanatiquement. Quand Jésus dit « pour lui, pour Dieu, tous sont vivants », il permet que nous regardions ce monde comme Dieu le regarde. Pas 24 heures sur 24, parce que ce serait insupportable, mais un bref instant. Un bref instant dans la Shekhinah, justement. Nul doute que les Sadducéens sont restés sans voix face à une telle effronterie qui consistait à prendre cette expression traditionnelle au pied le plus ultime de sa lettre. Mais les pharisiens de l'autre côté, qui croient, eux, à la résurrection des morts, auraient pu aussi être outrés de cette liberté que Jésus prend de façon non officielle, parce qu'il ne fait que citer une phrase de l'Exode. Mais on sent qu'il prend cette liberté malgré tout, puisqu'il n'entre pas dans les considérations tellement inutiles et qui ont perduré si longtemps par la suite sur le pourquoi, sur le comment, sur le corps. C'est lui qui ressuscite, ou l'âme, est-ce qu'elle est immortelle, vous savez, cette notion qui est arrivée après les évangiles, l'immortalité de l'âme. Puis aussi le quand ressuscite-t-on tout de suite, à la fin des temps, au jugement dernier, y a-t-il un purgatoire ou pas, que va dire Luther face à un purgatoire, vous voyez, enfin, c'est beaucoup de choses, il était contre, hein, je vous rappelle, il a même persiflé là-dessus. Et aussi, essentiellement, pour qui la résurrection, tout bien réfléchi. Ça fait beaucoup de questions que Jésus ne pose pas. Pour lui, tous sont vivants et basta, je dirais, que je n'ai pas écrit, parce que je n'écris pas ça. Surtout que Jésus sait bien que tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, prospèrent grâce à la menace directe ou indirecte de la mort. Pour lui, tous sont vivants. Jésus, en fait, à ce moment-là, les prend tous de haut. Pour lui, tous sont vivants. Alors, en épilogue de cette prédication, et à vrai dire, dans mon premier jet, je me suis dit, je vais faire un passage pour dire ce qu'il faut faire. Vous savez, le passage moraliste qu'on trouve après des prédications, souvent. Et je voulais le faire de façon un peu doctorale. Mais non. Je ne peux que modestement vous inviter à changer le monde. Vous inviter à... Et comment se faire vous inviter à projeter le regard de Dieu sur le monde. Et pour ça, vous avez qu'à vous infiltrer dans le regard de Jésus dans les évangiles. C'est pas compliqué, en fait. À faire comme Jésus, non pas dans l'imitation du Christ, à aller sur une croix et mourir, comme une certaine tradition le dit, mais oui, imiter le Christ par son regard. C'est très différent que de souffrir. Pratiquer le verbe augmenté, comme dit Hélène Sixous, je la nomme. Je ne peux que vous inviter aussi à évangéliser les frontières. Je ne peux que modestement vous inviter, encore une fois, non seulement à changer le monde, mais à accélérer, comme dit le Nouveau Testament, à hâter le règne de Dieu. Alors, en conclusion ultime de ce message, je préfère maintenant rester dans l'admiration de Jésus et de sa façon de tenir tête quand il sublime des formules anciennes qui transforment finalement des morts. Abraham, mort. Isaac, mort. Jacob, Israël, mort. En vivant. Je vais donc simplement vous lire une prière que j'ai composée il y a bien longtemps, au tout début de mon ministère, une prière dite d'illumination, qui est pour moi une aide constante dans l'inspiration. La voici. Seigneur, souffle sur les pages de notre Bible et retourne-les dans tous les sens pour que des mots anciens reprennent vie et pour que dans notre vie, des pages se tournent. Amen. Thank you.
Thank you.